Tous les mardis dès 11h30 sur RTL Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Carrément Rugby. La fin de saison approche et bien sûr les rendez-vous clés se succèdent. À peine digéré l'élimination des deux clubs français en demi-finale de la H-Cup, enfin les deux démonstrations devrait-on dire subies par Toulouse et Perpignan contre le Leinster et Northampton, à peine célébré, fêté la qualification du Stade français pour le dernier rendez-vous du challenge européen, à peine revenu aussi des suites de la polémique Chabal et ses propos maladroits et donc controversés sur l'arbitrage, il est déjà temps de se plonger dans la suite, l'inexorable suite, la dernière journée du championnat de France, notre bon vieux top 14, pas au niveau, mais qui nous offre tout de même un bien beau suspense. C'est qui, comment, à quel rang, pour quel barrage et quelle demi-finale marseillaise? Voilà les questions de votre week-end ovale auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de l'émission. Une heure de rugby, une heure de plaisir. Bienvenue sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby qui commence.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à midi et demi.
Carrément Rugby, dont vous pourrez écouter la rediffusion évidemment de 15h30 à 16h30 si vous avez loupé une partie, que vous pouvez retrouver également en podcast rtl-l'équipe.fr. Mais également et surtout rugbyconnection.com de Ludovic Ninet, présent aujourd'hui dans ce studio. Bonjour Ludovic.
Bonjour Clément et bonjour à tous.
Mais présent également Jérôme Milalou de RTL. Salut Jérôme.
Vive le mois de mai, c'est le mois du muguet, vous le savez.
On le sait tous. Pierre Saliac n'est pas loin, on l'a vu il y a 10 minutes. Il était à l'heure, en avance, il va finir en retard, comme un certain Renaud Bourrel qui ne sera pas là aujourd'hui et qu'on salue, comme un certain Philippe Spanguero également qui est parti superviser la tournée des Barbarians en Argentine. Messieurs, on va donc parler des demi-finales de Coupe d'Europe. On va commencer par la H-Cup, évidemment. On se penchera peut-être un petit peu plus tard sur la demi-finale du Challenge européen. Cette demi-finale de H-Cup, moi j'ai envie de dire, Ludovic Ninet, que les équipes françaises n'étaient tout simplement pas invitées. Il y a un gouffre qui m'a semblé évident entre le rugby français et le rugby anglo-saxon. Est-ce que c'est aussi ton constat ?
Un gouffre, et particulièrement pour Toulouse, je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Toulouse, on les a quand même vus réaliser une partie très intéressante. En fin de partie, ils sont quand même sur le point de revenir. Ils mettent vraiment le Leinster en danger et ils meurent finalement. Bon, à toute fin, ils sont finalement à 9 points, mais c'est une pénalité la dernière seconde. Bref, finalement, ils meurent pas si loin. Donc, je serais pas aussi sévère pour Toulouse. Perpignan, c'est vrai, on a vu vraiment un énorme fossé. Après, je pense que c'est des constats qu'on a pu faire pendant le tournoi, en tout cas de mon point de vue, hein, pendant le tournoi, sur le rugby français en général. Et forcément, ça se retrouve au travers de ces Coupes d'Europe. Alors, on pourra toujours dire que l'année dernière, ce sont deux clubs français qui se sont retrouvés en finale et que voilà, le titre était français là, il y a un an. Mais on ne peut pas dire que l'année dernière, les clubs français aient brillé dans cette Coupe d'Europe par la qualité de leur jeu. Et effectivement, on a vu cette année que c'était insuffisant. Alors c'était insuffisant aussi peut-être parce que ça s'est joué à l'extérieur, mais il y a quand même effectivement...
Ouais, y a pas que ça.
Non, effectivement. Après, il y a quand même une prestation sur le terrain qui est largement en faveur des deux équipes qui ont gagné. Là-dessus, il n'y a pas un match, c'est évident, ce sont les meilleurs qui ont gagné.
Il y a quand même une transition, on a l'impression que les clubs français et le rugby français en général n'a pas su apprécier la transition de cette saison de Coupe du Monde où on a l'impression que le jeu est un jeu dynamique, un jeu vivant. Le Leinster et Northampton ont réussi à marquer des essais sur leur 15e, 16e phase de jeu avec des ballons qui sortaient toujours et très vite, avec toujours des solutions autour du porteur du ballon, Jérôme Milalou. On ne voit pas ça dans le rugby français aujourd'hui.
On ne peut pas accuser Toulouse de ne pas faire du jeu. On ne va pas revenir sur le tirage au sort, sinon on va s'attirer les foudres de la commission de discipline ou du CSA. Mais c'est vrai qu'à domicile, la Coupe d'Europe, c'est important. On l'a vu encore une fois sur ces demi-finales. Leinster-Toulouse, c'était quand même l'un des plus beaux matchs qu'on ait vu de la saison. Toulouse n'a pas à rougir de sa défaite face à sans doute la plus belle équipe d'Europe. Quant à Perpignan, c'est tout simplement le signe d'une équipe, et on l'a vu cette saison aussi en top 14, une équipe qui est en fin de cycle, qui a brillamment eu des résultats ces deux dernières saisons, mais qui, comme à l'instar du Munster par exemple, doit se reconstruire, devra se priver d'ailleurs d'Europe la saison prochaine. C'était le petit poussé de ce dernier carré. Mais c'est vrai que quand on a la moitié du quorum en quart de finale, Hein, 4 sur 8, la moitié en demi-finale, on s'attendait au moins à avoir la moitié de la proportion en finale, au moins que le français. Quoi.
Pierre Salviette, bonjour.
Bonjour, excusez pour ce petit retard. C'est un retard à l'allumage, c'est l'âge.
Petit retard à l'allumage, effectivement. Mon bon Pierrot qui a perdu ses cheveux, comment on analyse ces demi-finales récemment là, vous avez
Moi, ce qui m'interpelle, c'est peut-on parler de matchs à l'extérieur en ce qui concerne les phases finales de la Coupe d'Europe, dans la mesure où l'ERC fait obligation aux clubs qualifiés de jouer dans des stades d'au moins 20, sinon 30 000 places. Ça veut dire que, in fine, les clubs recevants ne jouent pas dans leur stade. On l'a vu au niveau des quarts de finale, les quatre clubs français ont joué en Espagne, et on l'a vu au niveau des demi-finales, le Leinster joue dans l'ancien Lansdowne Road rénové, et l'équipe de Northampton n'a pas joué sur son terrain. La différence, c'est que chez les Britanniques, il y a toujours des supporters. En France, il n'y a que des spectateurs. Et quand tu n'as pour accompagner,
club,
quand tu n'as pour accompagner et Toulouse et Perpignan à ce stade de la compétition,
avec un
et à plus forte raison à l'étranger, un millier de supporters, ça veut dire que tu te mets un handicap de plus. Alors je veux bien croire qu'avec 22 voire 23 joueurs, tu n'as plus besoin du fameux 16e homme de Roger Coudert. Mais quelque part, quand on veut expliquer le fait qu'aujourd'hui on soit passé de 4 à 0, on peut aussi prendre en compte cette donnée.
Alors, il faut prendre cette donnée peut-être en compte. Il faut aussi et surtout quand même prendre en compte la donnée du jeu. Leinster et Northampton sont deux équipes, j'ai trouvé, qui se ressemblaient un petit peu dans leur capacité, justement, à ne pas être restrictifs. On a l'impression, Northampton, on nous en avait beaucoup parlé en nous expliquant, justement, que c'était peut-être l'équipe la plus restrictive de ces demi-finales qui envoyait le moins de jeux. Et au final, j'ai vu qu'ils ont gagné en proposant quelque chose qui est un rugby intéressant, intelligent et plutôt offensif.
Face à l'équipe de Perpignan, hors du coup, dès le premier quart
d'heure. Face à l'équipe de Perpignan, hors du coup.
Il faut le dire aussi, ça.
Mais est-ce que c'est quand même la conclusion de ces demi-finales et peut-être même de cette saison de H-Cup, Ludovic?
Moi, je dirais que les équipes qui ont gagné étaient des équipes qui maîtrisaient l'alternance avant trois quarts, le lien avant trois quarts avec des avants capables de jouer de manière extrêmement dynamique et à avancer sur tous les impacts. Ensuite, les équipes qui ont gagné étaient des équipes qui savaient magnifiquement conserver le ballon avec une technique dans les rucks. Là, effectivement, on ne voit pas en France. Ils sont capables à deux ou trois de nettoyer proprement un ruck que la balle elle sorte vite. Et puis ensuite, ce sont des équipes capables. En tout cas, j'ai regardé à nouveau la demi-finale du Leinster et je me suis amusé à calculer certaines séquences. Ils sont capables de tenir le ballon pendant des séquences très très longues avec donc ce que ça implique de dimension physique. Donc c'est-à-dire qu'ils tiennent le ballon longtemps, sur chaque impact ils imposent, ça dure une minute, deux minutes, et voilà, c'est sûr que ça les clubs français ne sont pas capables de faire. Si on regarde le match Leinster-Toulouse, Leinster ils font deux séquences à plus de deux minutes, Toulouse au mieux ils font une 30, et puis c'est
Ludo, oui. Tu as raison, ton analyse technique est passionnante.
Parfait.
N'empêche que, si tu veux aussi expliquer la victoire du Leinster sur Toulouse, c'est aussi simple que le mécanisme de l'addition, c'est parce que M. Sexton, il fait 100% de réussite.
Aussi.
Mais
les pénalités,
parce
les
que le temps, est-ce que c'est du temps de jeu ou c'est du temps pris au jeu? Parce que quand ça concrétise
pénalités, ils les ont comment?
Pas sur ce match-là.
Prenons l'exemple des pénalités concédées par les Toulousains. Elles sont souvent concédées au bout d'une séquence assez longue où c'est évidemment le manque de lucidité dû à la fatigue qui fait que...
Le but du rugby moderne aujourd'hui, c'est de provoquer la faute de l'adversaire pour marquer des pénalités plutôt que des essais.
Alors attends, parce que les deux séquences de deux minutes réalisées par les hommes du Leinster conduisent aux deux essais du Leinster.
Et au final, il n'y a pas scandale de voir le Leinster, qui est sans doute l'équipe la plus belle à avoir joué.
Et championne d'Europe il y a deux ans, n'oublions pas.
Et Northampton, la seule invaincue de cette campagne 2010-2011.
Et qui a dominé le championnat d'Angleterre pratiquement toute la saison.
Voilà. Face à une équipe de Toulouse qui, on l'a vu, en top 14 et peut-être au-dessus des autres dans un championnat très dense.
Ça reste à démontrer.
Qui a eu un parcours en montagne russe et une équipe de Perpignan qui est en fin de cycle.
Justement, cette équipe de Toulouse, on va se pencher évidemment un petit peu plus profondément dans le jeu du Leinster et dans le jeu de Northampton, dans ce
je
jeu qui gagne en Europe.
Sur le cas de Perpignan.
Mais je voudrais, on va y revenir sur le cas de Perpignan évidemment.
Que ça intéresse les Français avant le Leinster et
Toulouse d'abord, Pierre. Sur le cas de Toulouse, j'ai quand même l'impression, à vous entendre parler depuis le début de la saison, que Toulouse n'est pas revenu à un niveau de jeu exceptionnelle. Que cette saison
si
est
Toulouse
plus difficile.
Si Toulouse reçoit le Leinster au lieu d'aller jouer au Leinster, ouais. C'est peut-être le résultat est inversé et tu fais une autre analyse.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai l'impression quand même que Toulouse marque un peu le pas cette saison.
Moi, je dirais marque le pas. Je sais pas si c'est Toulouse en particulier, mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'on les voit encore une fois. Pierre, excuse-moi, ça va être une analyse un petit peu technique.
Mais ça m'intéresse. Mais...
D'accord.
Mais non, on ne peut pas. Au contraire, parce qu'on parle pas assez, à mon avis, du jeu.
Parlons-y.
Mais faut ajouter les autres paramètres, c'est ce que je dis.
Moi, je trouve que Toulouse, comme pas mal d'équipes françaises, a encore une tendance à beaucoup jouer devant la défense. Et on sait que dans le rugby d'aujourd'hui, il faut pénétrer très rapidement. Voilà. Et ce qui m'est apparu, alors que Toulouse a fait aussi de très beaux mouvements, avec des successions de passes dans l'axe, etc. Si on regarde par exemple les passes après contact sur ce match, il y en a deux fois plus côté toulousain. Et pourtant, les Toulousains n'ont pas forcément plus avancé dans ce genre de truc. Parce qu'ils ont tendance à plus essayer, et je pense que c'est culturel et traditionnel dans le rugby français, d'abord un peu contourner avant de pénétrer. Alors que les autres, c'est vrai que le Leinster, il y a eu des séquences qui n'étaient peut-être pas forcément magnifiques à voir. Tu disais tout à l'heure que c'était très dynamique. C'est on prend le ballon, on avance, on percute et on continue à avancer. On avance. Et voilà,
Avec Adarcy, bien meilleur que pendant le tournoi.
Ah oui. Là, c'est la métamorphose.
Bah oui, Adarcy qui n'est plus contesté.
Ouais. Et au final, on se demande si c'est finalement Toulon qui n'aurait pas eu le plus de chance face à Northampton que Perpignan dans ce style de jeu-là.
C'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de Perpignan.
On va parler de Perpignan, si tu y tiens, Pierre.
Oui, parce qu'il y a un aspect des choses qui n'a pas été souligné et qui m'intéresse.
Alors, on va parler de Perpignan. Cette rencontre face à Northampton qui a très très mal commencé. On le rappelle, Perpignan qui a été largement dominé. Néanmoins, il y a peut-être un tournant du match. Alors, est-ce vraiment un tournant? C'est cette position de hors-jeu sifflée à l'encontre de David Marty. Il n'est pas en position
mais
de hors-jeu.
Mais j'étais à la rue depuis le premier quart d'heure.
Moi, personnellement, je pense que ça ne change rien à cette rencontre.
Que
de toute façon, ils étaient trop loin.
Ça change un tout petit peu parce que, déjà, ils sont quand même pour quasiment la première fois du match en situation de mettre en difficulté la défense de Northampton. Derrière, finalement, ils se prennent 3 points.
Oui.
Et je pense que ça leur fait un peu péter les plombs quand même. Parce que derrière, le carton jaune qu'on voit de Julien Candelon, il ressemble pas trop à Julien Candelon. Et je pense que les gars, ils étaient
c'est pas le carton rouge qu'il doit avoir, Candelon. C'est même pas le carton jaune, arrête.
Oui, c'est carton rouge.
Tu ne trouves pas d'excuses.
Non, mais je dis pas que je trouve pas d'excuses sur le geste en lui-même. Je pense que quand même
sur les explications du geste,
c'est le moment où Perpignan pète les plombs. Il y a pas que Candelon, c'est toute l'équipe qui est à la rue. T'es d'accord?
En même temps, d'une certaine manière, ça me paraît compréhensible aussi. C'est une situation d'injustice assez forte, cette décision arbitrale. Après, je pense que pour les mêmes raisons que le Leinster a battu Toulouse, Northampton était supérieur.
D'ailleurs, Paul Gauss s'est pas privé sur l'antenne d'RTL et sur toutes les autres pour fustiger l'arbitre et dire qu'il était nul.
T'as raison, lui qui a balancé toute sa carrière, il a raison de critiquer.
Qu'est-ce que tu voulais dire sur
Perpignan? Je voulais faire remarquer une chose. C'est que Perpignan, jusqu'à maintenant, était quelque part une exception culturelle dans le rugby professionnel français, en ce sens que c'était une équipe qui régulièrement était dans l'élite, c'est-à-dire le top 6 du championnat, voire les phases finales de la Coupe d'Europe, avec encore une majorité de joueurs sélectionnables en équipe de France et même issus de la formation régionale. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais au coup d'envoi de ce match, sur 15 joueurs de Perpignan, 11 sur 15 étaient sélectionnables en équipe de France et issus de la formation. Et moi, et on l'a dit souvent dans cette émission, je trouvais ça exemplaire et je trouvais que c'était l'alternative au tout étranger. Après ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire une décevante carrière en championnat et une élimination prématurée en Coupe d'Europe qui fait que l'an prochain, Perpignan ne sera pas européen. Je me demande si en débriefing, Perpignan ne va pas conclure qu'il faut faire comme les autres, c'est-à-dire Toulon et Agen, et les autres, voire Toulouse, c'est-à-dire recruter à tour de bras de la main-d'œuvre étrangère, considérant que le modèle de Perpignan n'est plus valable pour rester dans l'élite.
Faut tout bouleverser, messieurs, à Perpignan?
Non, moi je suis pas certain de ça, parce que déjà, est-ce qu'ils en auraient les moyens? Ils ont malgré tout, Perpignan, ils sont aussi une exception dans le sens où depuis des années, ils sont dans le haut du tableau du top 14 avec un budget assez modeste, je crois qu'il tourne autour de 15 millions, ce qui est quand même loin des plus gros budgets. Donc est-ce qu'ils auraient vraiment les moyens de recruter comme ça? Ils ont
non, c'est une petite ville, ils vont être...
Mais à mon avis, c'est pas parce que cette année ils finissent ou pour le moment ils sont 9e et ils seront pas qualifiés, mais ils ont quand même été deux fois finalistes et une fois champions ces trois dernières années. Ils sont quand même demi-finalistes de la Coupe d'Europe. À mon avis, ils vont continuer sur cette politique. C'est quand même aussi leur identité qui est si forte et qui permet une telle adhésion du public.
Mais ça, c'est ton avis. Mais est-ce que la conséquence sera qu'ils reviendront dans l'élite avec cette politique-là ? C'est ça la question.
Bah, en même temps, je pense que c'est un club au sujet duquel on se pose souvent cette question et ils finissent toujours par y revenir. Ils ont été dans le top au début des années 2000. Ils sont un petit peu tombés, ils sont revenus.
Finalement, Pierre, il n'a pas manqué grand-chose à cette équipe de Perpignan pour réussir aussi une fin de saison.
Mais il a manqué. Ce qui fait la différence entre celui qui se qualifie et celui qui ne se qualifie pas.
Oui, mais peut-être pas suffisant pour tout bouleverser et changer radicalement et trahir ce qui fait l'ADN de l'USAP.
Oui, mais entre-temps, d'autres équipes se sont renforcées, d'autres équipes sont arrivées, comme le Racing Métro, etc.
Pour donner un petit peu de poids à
l'USAP. Oui, mais l'USAP est encore là, ça ne se joue à pas grand-chose, on n'a jamais vu un championnat aussi serré.
Oui, mais Métro et Toulon sont arrivés entre-temps.
Et ils sont en demi-finale de la H-Cup quand même.
Pour donner un petit peu de poids à ce que dit Pierre, Perpignan avait deux rencontres consécutivement à jouer qui étaient capitales pour leur saison. C'est une valise à Toulon.
Et pas que deux. Ils ont eu un 32e, un 64e avant.
Ça fait
deux mois qu'ils sont déjà au taquet. Ils n'ont que des matchs de phase finale, les Perpignanais.
Oui. Et ils ne les ont pas passés.
Et forcément, ça peut peut-être expliquer ce besoin de renouveau. On sait que le staff va changer, Jacques Brunel va partir, normalement pour diriger, on le rappelle, la formation italienne. Il pourrait être remplacé, alors il y a plusieurs noms qui circulent, on parle notamment de Jacques Delmas, l'ancien Biarro, l'ancien entraîneur du staff.
Apparemment, c'est fait.
C'est bien dans les tuyaux.
Visiblement, ce serait bien dans les tuyaux. On avait entendu parler à une époque d'une formation interne, d'une promotion interne de Bernard Gouta.
En gardant Gouta et Manas.
Voilà. En écartant.
Non, en gardant.
En gardant, oui, parce que.
L'ADN, comme dit Jérôme.
On avait entendu parler à une époque de la promotion interne de Gouta, éventuellement, pour tenter d'économiser un petit peu sur ce poste d'entraîneur. Je ne pense pas que Delmas ait pris énormément d'argent à Paul Gauss pour pouvoir l'empêcher de recruter. En tout cas, pour les Perpignanais, très clairement, c'est la fin d'un cycle. Dans cette rencontre précisément, on a vraiment eu l'impression que jamais ils n'ont pu rivaliser nulle part. C'est-à-dire que la première
mêlée, ils ont quand même certains joueurs qui sont passés aussi complètement au travers individuellement.
La première mêlée nous donne l'impression que les Perpignanais peuvent avoir éventuellement un avantage en mêlée fermée. Résultat, ils se font détruire tout au long de la rencontre par Dylan Hartley et sa bande. Et ensuite,
la deuxième ligne de Northampton.
C'est la deuxième ligne, c'est la première ligne.
Mais Nicolas Mas, par exemple, moi, je lui souhaite de très bonnes vacances à partir de maintenant et jusqu'à début juillet. Il faut qu'il souffle.
Vaut mieux pour l'équipe de France.
C'est monstrueux tout ce qu'il a joué cette année. Lui, il faut qu'il souffle. Bon, Guirado, il avait certainement plein de peps des matchs qu'il a pas joué pendant le tournoi et je suis assez content de le voir à ce niveau-là. Ça prouve qu'il a quand même du gaz. Mais après,
pas pour les lancer en revanche.
Il en a raté un du match.
Oui, c'est vrai.
Non, pour une fois,
c'est l'exception culturelle du jour.
Non, mais bon, après, c'est sûr que sur ce match, moi, j'ai trouvé David Mellet qui est passé à côté de son sujet. David Marty complètement à l'ouest. Donc après, ça fait
excellent
que.
Match
mais tu t'étonnes après pourquoi les clubs ont la tentation de prendre des Guito, des Keller et compagnie. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, encore une fois, je défendrai jusqu'au bout le modèle de Perpignan. Parce que ça me faisait croire, naïvement sûrement, que malgré tout, malgré l'évolution de ce professionnalisme, on pouvait encore garder un rugby à majorité de joueurs sélectionnables et issus de la formation régionale. Aujourd'hui, j'en doute.
Mais non, on va pas tout remettre en cause au premier raccro, Pierre. On peut considérer que c'est la thèse de la
question.
Oui, mais on peut considérer que c'est la thèse de l'accident.
Je suis d'accord. Si ça fait trois saisons qui se comptaient de suite, on pourrait se poser la question. Là, ils ont. Bon, puis c'est une saison à demi ratée.
N'oubliez pas les gars qui avaient bien longtemps qu'ils voulaient aller en Coupe d'Europe à Barcelone.
C'est pas le Stade français. C'est pas le Stade français qui, d'une saison à l'autre, entérine son déclin. Perpignan, c'est la première saison.
La différence, Jérôme. En dépit de ce que tu dis, la différence, c'est que le Stade français, puisqu'on nous annonce, l'arrivée de Monsieur Miracle Laporte au Stade français, et on nous annonce le roi des casinos pour renflouer les caisses du Stade français. Eh bien, en dépit de tout ce que tu dis, je vois plus d'avenir dans le Stade français pour se renforcer que d'avenir dans une petite ville comme Perpignan.
Petite ville, mais grosse région de rugby.
Oui, mais pour changer de politique de recrutement. C'est ça la problématique qui est posée aujourd'hui.
Mais peut-être que leur ADN suffira et leur valeur et leur politique.
Alors l'ADN de Toulon. L'ADN de Toulon, attends, c'était les Diaz et compagnie. Ils ont changé d'ADN quand même depuis.
Ah, l'ADN, c'est la passion à Toulon. Et le Muguet.
Non, mais je pense qu'après, ils peuvent aussi faire un recrutement comme ils ont toujours fait d'ailleurs, avec quelques étrangers par petites touches. D'ailleurs, ils ont une certaine capacité à les fidéliser, ces étrangers. Ils en ont certains qui sont là depuis des années.
Ah bah, Alvarez Carrelis, il faut qu'ils prennent une retraite d'ailleurs.
Ce
sont des joueurs qui sont là depuis longtemps.
Oui, mais est-ce qu'ils peuvent. Encore une fois, compte tenu du fait que le marché augmentait, t'es d'accord là-dessus?
Ils ont réussi à attirer James Hook. Pourquoi ils attireraient pas
Attends, tu tombes bien. Ah bah c'est parfait. Il n'y a pas une clause dans le contrat de Hook, selon laquelle, si Perpignan n'est pas européen, il n'est pas obligé de s'engager avec... Ah bah oui.
Je ne sais pas.
Mais il faut poser ces questions-là aujourd'hui.
Je ne sais pas.
Après l'élimination, de l'USAP, de la Coupe d'Europe l'année prochaine.
L'USAP pourra toujours se retourner en disant qu'il dispute la fameuse Hamelin Cup.
Oui, c'est ça. Oui,
tu vas prendre
où pour un jambon? Il y a déjà assez d'Henson comme con, il n'y a pas 36 au Pays de Galles.
Hop, 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 hop.
Devin Henson qui a été réintégré au RCT, Jérôme Milagou, on va y revenir évidemment d'ici quelques minutes. Moi, je voudrais poser une question, messieurs, qui est née du constat de ces derniers mois et du constat de ces deux demi-finales. Est-ce que l'équipe de France, aujourd'hui, peut être au niveau quand on voit les clubs français à ce point dominés sur les fondamentaux du nouveau rugby par des clubs anglo-saxons? Et deuxième question qui est un petit peu liée à celle-ci, l'équipe de France va-t-elle devoir arrêter de considérer que sa force est la mêlée fermée en l'absence de pilier gauche et en voyant par exemple un Nicolas Mast qui se fait régulièrement détruire? Et peut-être opérer SAMU parce que justement la mêlée fermée n'est plus ou ne sera plus une force spécifique de l'équipe de France. Il y a deux questions dans ce que je viens de poser. La première, c'est...
La mêlée fermée n'est pas l'avenir du rugby moderne.
Non, justement
pas. Les All Blacks nous l'ont démontré, et les Australiens depuis longtemps.
Est-ce que la France a la force du constat fait sur ces deux rencontres et en plus des blessures des piliers principaux français, doit opérer SAMU dans la perspective de la Coupe du Monde? Sous-entendu, Marc Lévremont doit comprendre que de toute façon, c'est pas en mêlée fermée qu'on fera la différence, et profiter des blessures et des constats pour écarter et offrir un jeu différent. Ludo.
Moi, je pense que l'équipe de France, déjà, avait fait de la mêlée une de ses forces parce que c'était un peu... elle ne pouvait pas faire autrement, disons.
L'équipe du pauvre, quoi.
Ouais, c'est culturel aussi.
C'est effectivement très culturel. Maintenant, c'est sûr que je ne pense pas que les piliers qu'on a aujourd'hui sont des modèles d'endurance par rapport à certains joueurs qu'on peut voir à d'autres postes et beaucoup plus au même poste, je veux dire, dans d'autres nations, et beaucoup plus mobiles. Après, opérer SAMU, je pense que c'est un double débat, en fait. Il y a simplement de se dire, cet été, l'équipe de France va bosser physiquement pour rattraper un peu le retard qu'elle peut avoir.
Toutes les autres équipes vont faire pareil. Hein.
Exactement. Mais c'est vrai qu'on a pu voir sur des précédentes Coupes du Monde qu'elle était capable un peu de rattraper son retard. Pas forcément sur la durée, c'est-à-dire pas forcément être capable d'enchaîner plusieurs matchs, mais au moins sur un ou deux gros matchs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire de ce physique qu'elle aura gagné? Est-ce qu'elle va l'utiliser uniquement pour devenir tout d'un coup très réaliste et pragmatique et surtout chercher à contrer ce rugby qu'elle n'arrive pas à pratiquer? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont aussi profiter de ces deux mois et demi de préparation, parce que les matchs de poule on peut considérer un peu comme des matchs de préparation, pour affiner un rugby que Marc Lévremont dit vouloir pratiquer depuis tant d'années? Là, à mon avis, je ne sais pas, c'est à chacun de se faire son idée. Est-ce qu'il y aura encore un côté un peu rêveur, utopiste du côté de Lévremont, ou un côté au contraire, comme tu dis, la politique du pauvre? On va se dire, bah, voilà, on fait avec les moyens qu'on a.
Rêver quand tu n'as pas les moyens, hein. Ça ne va pas changer grand-chose. Hein.
Non, mais par exemple, quand on voit ces deux rencontres, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une mue cette saison. C'est peut-être saison pré-coupe du monde. C'est peut-être aussi les nouvelles réformes de l'arbitrage. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a des clubs qui ont compris comment il fallait jouer ce rugby en s'appuyant sur les images du Super 15, en s'appuyant sur le rugby de l'hémisphère sud pratiqué par la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, et qu'elles savent désormais jouer ce nouveau rugby. On a l'impression que toutes nos équipes françaises butent sur ce passage, sur ce moment de transition. Est-ce qu'on aura le temps en 3 mois, 4 mois, Pierre Salvia, de gommer ce retard?
Il faut surtout pas prendre référence
Les équipes françaises sont les joueurs français.
C'est circonstanciel parce que je te dis, t'inverses l'ordre des facteurs.
Mais je suis pas sûr.
Et t'as peut-être des résultats différents.
Je suis pas d'accord.
Et tu tires des conclusions totalement opposées. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser plein de questions. Mais le problème du jeu, puisque c'est le jeu qui nous intéresse, c'est-à-dire, tu peux avoir la volonté de pratiquer un rugby à la française comme autrefois on le faisait. Dans le meilleur des cas, si tu y arrives, comme le fait remarquer Ludo, tu réussiras un exploit dans un tournoi mondial, mais tu ne pourras pas espérer, à mon avis, continuer, parce que notre système peut être fort, si on n'a pas les hommes pour l'appréhender, ça ne servira à rien.
Jérôme Milagou, est-ce que le rugby français peut encore, dans ce nouveau rugby, garder son identité faux-folle, utopiste, dont parlait Ludovic?
Oui, Ludovic avait raison tout à l'heure en disant que l'équipe de France va bosser physiquement. Marc Lévremont a qu'à prier, invoquer tous les je ne sais quels...
Les guérisseurs de pilier gauche, déjà, serait pas mal.
Ouais, et puis peut-être prier pour que la pluie soit la meilleure alliée du 15 de France.
On a des piliers qui sont, à mon avis, compétitifs par rapport aux équipes de l'hémisphère sud, hein. C'est en termes de piliers, non, Ludo?
Oui, non, mais je pense qu'en termes de piliers gauche, on aura de toute façon. C'est sûr que les deux meilleurs sont pris, enfin sont blessés, mais on a des piliers tout à fait corrects encore à ce poste.
Oui, non, mais tout à fait correct.
En tout cas, comparé aux Néo-Zélandais et aux Australiens, oui.
Oui, clairement.
Enfin, c'est quand même une perte. Jérôme, on t'a loupé.
Oui, et peut-être que non, la météo sera aussi peut-être un allié pour cette équipe de France qui est tellement imprévisible, on le sait, qui en bossant. Après, on va voir ce que
la météo. Tu veux dire, il va faire beau?
Non,
à cette époque-là de l'année.
Non.
Ah bon?
Mais non, la pluie risque d'être une alliée.
Oui, plutôt.
Pour l'équipe de Marc Lévremont, vous n'êtes pas d'accord?
Ah oui, pour ce rugby no scrum no win.
Oui, voilà.
Ah oui.
Ça va peut-être niveler les valeurs.
Oui, sûrement.
Et puis on va attendre. C'est quoi? C'est dans une semaine maintenant.
Ouais. C'est mercredi prochain. Hein,
mercredi prochain.
La Saint-Estelle. La Saint-Estelle, effectivement.
Ouais.
Est-ce que, justement, dans ces dernières journées, dans ces dernières semaines de rugby, vous avez vu des joueurs dont vous vous êtes dit...
Un geste Ludo, là.
Dont vous vous êtes
c'est
dit,
notre sélectionneur.
Dont on s'est dit, il faut absolument qu'il soit à la Coupe du Monde. C'est pas possible de s'en passer.
Bah, je sais pas, enfin, je crois que c'était il y a 15 jours, on parlait d'Aimance, on se demande s'il pourrait visiblement.
Moi, je le prends.
Il est dit dans Midi Olympique qu'il serait pas mal dans les petits papiers. J'avoue que j'arrive pas à savoir.
Mais moi, je le prends à l'arrière parce qu'il peut jouer aussi à l'aile, il peut buter de loin dans un tournoi.
Avec un taux de réussite quand même très faible. C'est un peu.
Non, il peut buter de loin, c'est-à-dire il peut buter de 60 mètres, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et comme tu butes exceptionnellement de 60 mètres, tu prends pas un gros risque quand tu dis ça. Non mais moi je prendrais en revanche, moi je prendrais un mec qui vont pas prendre et je le regrette très franchement. C'est le meilleur buteur du rugby français depuis des années.
Ah, Romain Tellet,
qui est capable de jouer à la mêlée, à l'ouverture et à l'arrière, qui est peut-être pas le meilleur en termes de rugby, mais qui dans un tournoi aussi difficile que la Coupe du Monde, qui souvent détermine le vainqueur par le taux de réussite du buteur, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un buteur comme Tellet dans un tournoi comme la Coupe du Monde.
Mais est-ce que c'est à ce poste-là que les discussions seront les plus enflammées?
Non, mais non, mais ils ne vont pas s'accoter parce que ce n'est pas culturel. Le buteur,
en troisième ligne, c'est pour les Français. Enfin, Tellet, dans ce cas, il aurait fallu essayer avant.
Mais non, mais tu ne prends pas Tellet. Tu sais très bien. Tellet, tu sais ce qu'il vaut et ses limites. Mais tu ne vas pas le prendre pour ça. Tu vas le prendre si tu décides une bonne fois pour toutes que pour gagner la Coupe du Monde, il te faut d'abord un buteur à 85% de réussite. Tu prends Tellet et tu fais l'équipe autour. Effectivement, tu n'attends pas de Tellet que l'événement le transforme rugbystiquement.
Ça ne va pas sortir du chapeau aujourd'hui, effectivement.
Mais parce que Stransky, c'était meilleur.
Et je crois que Parra, quand même, a un taux de réussite assez intéressant.
Pas du niveau de Tellet sur la durée. Pas sur la durée.
Sur le tournoi 2010, notamment.
Sur la durée.
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas le plus épineux. Je pense que c'est plus en troisième ligne qu'il faut le chercher, les casse-têtes des sélectionneurs.
Est-ce qu'il y aurait vraiment casse-tête?
Au centre aussi.
C'est toute la question. Oui, avec l'émergence de Florian Fritz, par exemple.
Mais non, mais il n'en veut pas.
Enfin, la réémergence de Florian
Fritz. Il est blacklisté, c'est dommage.
Ça, c'est sûr que c'est dommage.
Mais apparemment, il est blacklisté.
Comme Bicamol.
Comme Bicamol, qui a été très bon encore.
Par défaut.
De l'émission la semaine prochaine, mardi prochain, on fera la liste.
On fera la liste, on préparera notre liste. D'accord, Pierre?
Alors, Pierre,
je vais vous faire la liste de ceux qui n'y seront pas.
Oui, non, mais ça,
parce
c'est trop facile.
Parce qu'ils sont blacklistés. Ceux qui y seront, parce que de toute façon, c'est du marketing.
D'ailleurs, petite question, est-ce que la liste cachée sera dévoilée ou pas?
Non, si elle est cachée, normalement, elle n'est pas faite.
Ça dépend du bon vouloir de Marc.
Ça dépend de Marc Lévremont. Parce qu'évidemment, on aura une liste de 40, on n'aura pas de liste de 30. Les fameux réservistes qui seront obligés de s'entretenir physiquement dans la perspective d'une éventuelle
blessure
qu'on ne souhaite
pas. Prendre un billet open pour leurs vacances.
Voilà. Ce qui peut servir.
Oui, comme Elorga en 2003.
Oh, comme un paquet qui ont déjà fait l'aller-retour en équipe de France. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette demi-heure. Vous pouvez partir. C'était très sympa de vous avoir en notre compagnie.
La semaine prochaine. Il y a une deuxième mi-temps.
Je vous invite à rester parce qu'il y a la deuxième mi-temps. Et dans cette deuxième mi-temps, on va parler de challenge européen. Je sais que ça vous passionne tout particulièrement. Parce qu'on a un club français qui peut peut-être accrocher une 7e place pour les Européens.
Mais c'est quoi, Père Noël, toi? Vas-y.
Bah pourquoi pas.
Pourquoi ça pas. Se passe où encore ça?
Pourquoi pas.
Où ça se passe cette finale?
À Cardiff.
Ah, c'est curieux, tiens.
C'est à Cardiff.
C'est étonnant, ouais. C'est étonnant. Bon, ça vous intéresse pas, mais on va en parler quand même. Ce sera Stade Français face au Harlequins. Les Harlequins qui ont battu le Munster, le Stade Français qui a dominé Clermont grâce aux nombreuses erreurs des Clermontois qui peuvent un petit peu se tirer les cheveux après cette demi-finale ratée au Stade Charletti. Et puis on reviendra évidemment sur la suite du Top 14. La dernière journée de la saison régulière, ce sera évidemment ce week-end avec plusieurs affiches, notamment un derby francilien entre le Stade Français à Charletti et le Racing Métro 92. Et puis surtout cette rencontre qui va nous nous faire beaucoup parler dans la deuxième demi-heure. Ce sera entre Montpellier et Toulon. L'une de ces deux équipes sera sans doute éliminée à l'issue de la rencontre.
Sur RTL L'Équipe, Carrément Rugby jusqu'à 12h30. RTL L'Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
La deuxième mi-temps de Carrément Rugby au programme, le championnat de France, le challenge européen. Également, nous reviendrons sur tout ce qui fait l'actualité. Et puis, on reviendra, si vous voulez, messieurs les débatteurs, Jérôme Milagou, Ludovic Ninet ou encore Pierre Salviat, sur ces deux demi-finales de Edge Cup remportées donc, on l'aura compris, par le Leinster et Northampton au détriment de Toulouse et Perpignan. Et ce, à 8 jours, messieurs, maintenant, de l'annonce par Marc Tulay-Remond des 30 joueurs appelés à disputer la Coupe du Monde de rugby en septembre et octobre. Prochain en Nouvelle-Zélande. On reviendra donc sur ce top 14 avec plusieurs affiches à suivre très intéressantes ce week-end. Ce sera à vivre en multiplex sur RTL L'Équipe avec toutes les rencontres en multiplex avec Candice Roland notamment aux manettes. On reviendra notamment sur le Stade Français Racing, le derby francilien, le derby balance comme on l'a appelé la semaine dernière, sur le Toulon Montpellier, Montpellier-Toulon plus exactement, avec un enjeu terrible pour ces deux équipes. Et puis on se penchera, je le disais tout à l'heure, sur le challenge européen également et les dernières infos de la planète rugby.
RTL L'Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Et pourquoi pas, Pierre Salviat, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas quoi d'ailleurs?
Justement, posons-nous la question.
Posons-nous la question.
Dans quelle étagère?
Et alors pourquoi pas, Pierre?
Bah oui, moi je dis pourquoi.
Ouais.
Mais qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je trouve ça osé.
Bon, on peut parler sérieusement de rugby dans cette émission.
On peut parler sérieusement. Bon. Allez, on va parler sérieusement de rugby avec Pierre Salviat, Ludovic Ninet, donc de rugbyconnection.com et Jérôme Milagou. Messieurs, on va parler challenge européen, tiens.
Allez,
on va parler challenge européen. J'ai eu la chance d'être à Charletti pour la rencontre entre le Stade Français et Clermont. Je dis j'ai eu la chance parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous envient de pouvoir aller comme ça aux rencontres qu'on veut voir. C'était pas un bon match, hein, on va dire les choses très clairement.
C'était un stade à la con.
C'est un stade pourri. C'est un très beau stade pour l'athlétisme.
C'est un très beau stade pour les concours d'architectes. D'abord.
Déjà.
Parce que l'athlétisme n'y va pas.
L'athlétisme n'y va pas assez.
Il va plus
ouais, à cause du Stade de France. Mais bon, c'est un beau stade pour l'athlétisme. Et je rappelle quand même qu'il y a eu un record du monde du 100 mètres dans ce stade. Bon, qui a été invalidé ensuite parce qu'en fait, le
bonheur, en
l'occurrence, Tim Montgomery était chargé. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. On est très très mal placé en tribune de presse, effectivement, pour regarder les rencontres
partout
au Stade Charletti. Mais
même pas qu'en tribune de presse.
Mais la vraie info, c'était vendredi soir. Le Stade Français s'est qualifié pour une finale européenne face à Clermont. On a vu des Clermontois à l'issue de la rencontre assez énervés de la prestation d'ensemble des Clermontois, car certes il y a eu des choses positives, mais quand même Clermont s'est fait avoir sur deux erreurs mais monumentales, deux essais en contre de Julien Arias et Guillaume Boussès qui scellent le sort de cette rencontre. On peut en tirer des conclusions, je trouve, sur Clermont et cette rencontre qui est finalement un petit peu à l'image de la saison clermontoise, Ludovic.
Oui, c'est certainement à l'image de leur saison. J'étais surpris de voir Brent Russell en 10.
James était au repos et la VA était blessé la veille. Donc il n'y avait pas d'autres possibilités, sauf éventuellement à mettre Kevin Seignot en 9.
Je pense que ça veut dire aussi quelles étaient les priorités de Clermont. Remplacer Brock James par Russell, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Russell, ça a été un joueur, une super pile électrique, un très beau joueur à une époque. Il ne s'est jamais imposé à Clermont. C'est clairement un troisième choix à l'ouverture. D'ailleurs, c'est un joueur polyvalent. Et donc, les deux cagades viennent essentiellement de lui. Il y en a une, je pense qu'il n'est pas tout seul fautif, mais voilà. À mon avis, Clermont était peut-être en colère, mais dans ce cas-là, il fallait l'être un peu plus avant et décider de mettre une autre équipe sur le terrain et décider de faire de ce match un réel objectif.
Après, le Stade Français qui s'impose. Est-ce que ça sauve une saison c'est déjà
ça
une peut. Finale européenne à disputer.
Ouais. Ça peut.
Mats Guadini avait l'air ravi à l'issue de la rencontre.
Ah, mais Max, il
on a l'impression qu'il se voile un tout petit peu la face, mais est-ce que ça suffit?
Non, parce que c'est le challenge de la vie, quoi, grosso modo. C'est vrai que cette rencontre, ce n'est pas de moi, il y a copyright. c'est une rencontre qui risque de faire basculer le Stade Français, soit en deuxième division du rugby français et européen, soit le laisser au contact ou le laisser espérer rester au contact.
Est-ce que c'est la
le Stade Français n'a pas des problèmes sportifs en ce moment?
Non, mais justement,
en plus.
Attention,
c'est beaucoup plus grave.
Justement, c'est plus qu'un trophée, parce que bon, le challenge européen, il sera bien sur le dans la chambre de Max Guazzini, mais
c'est se qualifier pour la Coupe d'Europe, voilà, avec l'économie
qui va avec.
Les
conséquences de cet éventuel trophée.
Parce que je te signale qu'ils ne sont pas sortis de la merde administrativement. Non, non. Si monsieur Je fais tout ne leur trouve pas l'oseille du casino. Hein.
Mais est-ce que sportivement...
Sportivement, il faut dire clairement que sur ce match, s'il n'y a pas les deux interceptions, c'est d'une pauvreté, c'est incroyable,
c'est, terrible,
c'est fou. Et si on regarde quand même cette équipe, il reste quand même des joueurs de qualité sur le terrain, donc collectivement, il n'y a rien qui prend. C'est franchement inquiétant.
Est-ce que c'est pas dénoncer la qualité du rugby français qu'on dénonçait déjà dans la première mi-temps à travers les éliminations de Toulouse et surtout de Perpignan?
Non, mais certainement. Mais là, c'est...
Ah oui, voilà, c'est le niveau du rugby.
Est-ce qu'il est terrible quand même?
Oui, mais c'est pas très étonnant au final. Si le Stade français était capable de produire des matchs de qualité collectivement, on l'aurait déjà vu cette saison.
Oui, absolument.
Ils vont pas se réveiller par magie parce qu'il y a, voilà, y a une carotte au bout.
Non, mais
voilà.
C'est terrible.
C'est contre le Champion de France quand même, le match. Donc ça doit faire quand même un meilleur match que ça.
Non, mais non seulement ça doit faire un meilleur match que ça, ensuite ça doit faire un meilleur spectacle que ça.
Il faut être
mais surtout,
deux
ce qui est terrible, non, mais ce qui est terrible quand même dans cette rencontre, c'est que le Stade français aligne sa meilleure équipe. Et je crois vous avoir entendu tous, ici, dans Carrément Rugby, dire que cette équipe du Stade français, quand elle alignait son équipe type, avait quand même des joueurs de classe internationale.
Ah bah,
on peut regarder la deuxième ligne, Papé Palmer, la troisième ligne, Bourbon, Parissé. Et Askel.
Leguizamon ne fait plus la maille alors qu'il a été porteur de toute cette troisième ligne.
La charnière, c'est quand même Julien Dupuis qu'on appelle de nouveau en équipe de France. Et Lionel Bolsis qui sera l'ouvreur de Toulouse la saison prochaine. Les lignes arrière, il y a quand même du talent. Alors certes, en première ligne, il y a des petits soucis, mais c'est quand même une formation qui a du chien, qui a de la gueule sur le terrain.
Vous savez bien que le rugby est un sport d'équipe, un sport de dynamique. Et quand la saison a été mentalement compliquée, c'est pas à la fin de la saison que se révèle et voilà, j'allais dire qu'ils sont pas déjà en vacances dans leur tête parce qu'il faut aller au bout et c'est trop important pour le club, pour l'institution, que d'essayer de gagner cette compétition, mais ils ont tous déjà la tête à la saison prochaine.
Enfin, ce qui est terrible quand même, c'est que voir que Michael Checa, après un an de travail sur une rencontre qui est importante pour le club, n'arrive pas à faire proposer à ses joueurs un rugby un poil plus intéressant que cette médiocrité insigne.
Michael Checa qui a déjà un pied sur la touche quand même.
Oui, enfin, tu vas rester la saison prochaine. Oui,
enfin, si j'ai bien compris, ils vont mettre une couche au-dessus qui est la porte. Et si la porte entre au Stade français, ça sera aussi pour s'occuper du sportif. Donc déjà l'autorité et le fameux plan Checa dont on a parlé au début de cette saison. Moi, j'attends de voir.
Si Bernard Laporte revient, c'est pour mettre les pieds sur le terrain.
Ah, pas pour mettre les pieds sur le terrain. Ah non, j'ai pas dit ça.
C'est pour tirer les ficelles.
Hein. Ouais, c'est pour
tirer les ficelles
sans prendre
aussi.
Des coups. Ah bah tiens, tu le vois s'occuper uniquement du pognon. Attends, et Laporte, il se prend quand même pour le plus grand technicien du monde.
Ouais, mais s'il a encore envie de se gérer des problèmes de personnes en première ligne.
Non, mais non,
ça
sera mais
c'est lui qui dictera.
Voilà,
comme il avait l'intention de le faire à Bayonne.
À mot couvert, hein. C'est sûr que c'est quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il est très très occupé, qu'il n'a pas le temps, mais qui est annoncé qui s'annonce partout.
Je l'ai entendu hier, ça me paraît évident qu'il mettra le nez dans le sportif. Donc ça veut dire que le fameux plan Checa, puisque c'est ça dont tu parlais, c'est est-ce que Checa, par rapport à cette équipe, par rapport à la saison prochaine, peut changer effectivement les données. Checa, en plus sous contrôle, je suis même pas sûr que ça va tenir cette histoire.
Hein. Bernard
Après,
Laporte.
Après, je ferai comme une parenthèse. Je pense comme que le Stade français est un club à contexte un peu particulier. Est-ce que c'est le fait de sa petite structure, de l'omniprésence de son président, je ne sais pas. Mais les greffes d'entraîneurs étrangers prennent pas forcément. On l'avait vu avec Ewan McKenzie.
Ah bah ça jamais marché.
Voilà. Qui était excellent avant en Super 14, qui est à nouveau excellent en Super 15. Dont Dominicim disait récemment que il avait tout compris au rugby, ça a pas pris. Checa a quand même fait un super boulot au Leinster, ça prend pas ou pas encore.
Marc, avec cette équipe-là, j'en fais aussi, moi, du bon boulot. Hein, avec le Leinster, oui.
Bah, n'empêche qu'il l'a pris ou le Leinster n'était pas du tout à ce qu'il en est aujourd'hui.
Oui.
Donc,
oui, parce qu'il n'y a pas de pack
quelque chose,
à l'époque.
Là, donc peut-être qu'une personnalité comme Laporte.
Avec Nick Mallet, ça s'était bien passé.
Ouais. Voilà. Ce qui se dit aussi de cette époque-là, c'est qu'il est arrivé et qu'il était encore sur une génération vraiment exceptionnelle.
Tout à fait, qui pouvait se gérer elle-même.
Mats Guadini qui nous a dit à l'issue de la rencontre qu'il fallait s'attendre à de très très bonnes nouvelles annoncées dans les prochains jours pour le Stade français.
Alors, quelle grosse nouvelle.
Kéléer en l'occurrence, même si vous voulez
dans
pas
les bagages de Laporte.
Ouais, c'est ça, il suit
Laporte. Dans la valise en carton de Laporte.
Et Conte Pomi aussi.
Et Conte Pomi, a priori, qui devrait pouvoir arriver dans le cadre d'un échange, Jérôme Hilalgou, avec Mathieu Bastaro.
D'après ce que j'ai compris.
Un échange avec
un échange. Il y a un joueur qui va dans sens, et oui, ils échangeront dans l'avion.
Oui, voilà. Ouais.
En tout cas, il y a du monde qui frappe au portillon hein, pour Mathieu Bastaro. On rappelle également que le Racing Métro 92 s'est positionné. Alors, l'adversaire de cette formation.
Comment Tu crois Bastaro au métro ?
Ah bah pourquoi pas. Ah bah, j'y crois tout à fait.
Faire monter les enchères, non ?
J'y crois tout à fait. Juste une chose, messieurs. L'adversaire du Stade français en finale, ce sera donc cette formation des Harlequins qui s'est imposée sur la pelouse du Munster. Signe évident, s'il en était besoin, de... Je sens que Pierre prépare un sale coup, là, avec son téléphone sur l'oreille.
Non, c'est parce que Bastaro qui m'appelle.
Ah, d'accord. Et
elle me dit qu'il n'est pas du tout question qu'il aille au métro.
Ah, jamais. Même pas le début d'un commencement.
On sait où il veut aller, en tout cas.
Ouais. Bon. L'adversaire, donc, le Harlequins, qui a battu le Munster, ce qui nous fait dire, en passant, que le Munster n'était plus une équipe quand Toulon l'a battu.
On l'a à peu près tous dit.
En H-Club, on l'a à peu près tous dit. Le Harlequins, alors moi, j'ai juste une petite question parce que je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Nick Easter a pris un carton rouge dans cette rencontre.
Même Brive a failli battre le Munster.
Mais un carton rouge lié à deux cartons jaunes et sans aucun geste de violence. Est-ce qu'il sera automatiquement suspendu pour la finale ou pas ? Est-ce que le carton rouge suspend automatiquement pour la finale ? Non.
Non, ça ne fonctionne pas comme en football.
Il faut que la commission se saisisse d'éventuels... Quand on a pris le carton rouge dans une rencontre...
Ça sera une suspension pour trois jours.
Mais la suspension, il n'y a pas de suspension automatique. Pour
autant, je
ne
veux pas dire de conneries, mais pour autant que je me souvienne, réglementairement, la suspension est sur des jours...
Oui.
Et non pas sur des événements.
On est bien d'accord. Oui. Bon, donc a priori, Nick Easter devrait pouvoir participer à la
dit,
finale.
Attention, les Harlequins ont passé sulfureux, c'est quand même une bonne équipe.
Oui.
C'est pas gagné pour cette France.
On l'a encore vu, parce que s'imposer sur la pelouse du Munster comme ça, comme ils l'ont fait, c'est quand même assez impressionnant.
C'est eux qui, à Reading, avaient battu Clermont il y a quelques années en finale. Et c'est vrai que c'est une équipe, encore une fois, qui n'est pas très recommandable. Parce que c'est elle qui a pratiqué l'histoire du faux sang, là. C'est-à-dire les
faux remplacements.
Les faux remplacements, sur saignement, etc. Ce qui a valu d'ailleurs à notre bon numéro 8 favori de la grande époque de Dean Richards de se retrouver à la rue. Au-delà de ça, d'un strict point de vue sportif, je pense que c'est un os. Et on va se rendre compte encore une fois, sur un match qui va avoir lieu donc à Cardiff, que tout stade français qu'il est, c'est pas gagné d'avance, donc le stade français n'a pas encore sauvé sa saison.
Et d'un strict point de vue sportif, elle vous intéresse, cette finale, messieurs ?
Si c'est du bon rugby, oui.
Donc tu vas
voir
ce qu'ils
vont faire.
Donc tu vas la regarder. Quand même.
Mais je regarde tout, moi.
Mais ça dépend qui la diffuse. Hein. Moi, j'aurais bien aimé regarder Munster Harlequins, mais j'ai pas pu. Donc...
C'est dommage. Pourtant, c'est quand même diffusé sur un long canal. C'était diffusé sur Eurosport, en l'occurrence. On rappelle le match entre eux. Mais c'est vrai que c'est difficilement accessible.
Moi, je l'ai vu.
Il faut venir à RTL.
Ça m'a conforté, je te jure, dans l'idée que les Harlequins, je sais pas comment ils sont classés dans le championnat d'Angleterre, mais c'est une équipe qui a des talents. Hein.
Bon, messieurs. Il nous reste 15 minutes à jouer dans Carrément Rugby. Je voudrais quand même qu'on se penche sur le championnat de France parce que ça va être ce qui va nous occuper pendant les prochains jours.
Je veux, mon gars.
Il y a plusieurs affiches évidemment qui vont nous intéresser.
Tu l'as dit, Bouffi.
Mais celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est évidemment ce match entre Montpellier et Toulon. C'est un huitième de finale de top 14, très clairement, un de plus.
Il faut rétablir les huitièmes.
Entre ces deux formations, la dynamique est plutôt toulonnaise. Mais l'avantage du terrain et Montpellier-Rhin, comment on appréhende cette rencontre, Pierre Salviette ?
Pour moi, je pense que Montpellier aujourd'hui ne peut pas faire l'économie d'une victoire à partir du moment où une défaite foutrait en l'air toute la saison, ruinerait plein d'espoir de Montpellier et de toute la région, remettrait en cause peut-être même la fameuse réputation de Galtier, super entraîneur. Pour toutes ces raisons-là, je crois que Montpellier ne peut pas perdre.
C'est un remake du Lièvre et de la Tortue. Hein. C'est la fable de la Fontaine. Hein. Toulon qui a commencé sa saison, on ne le sait que trop par deux défaites à domicile. Montpellier qui a toujours été dans le top 6 depuis la deuxième journée. Ils ont été deux fois leaders, il ne faut pas l'oublier. Cette saison, ils sont à peine sortis. Ils restent sur trois défaites consécutives. La saison est top. Un petit peu longue peut-être. Et une donnée que rappelle souvent le président Boudjelal, qui rêve de revenir de Montpellier avec le scooter de Fabien Galtier. Hein.
Mais il y a longtemps qu'il l'a vendu, il faudrait peut-être qu'il se tienne à la page, Boudjelal. Hein.
Ouais, mais pourquoi il a parié alors
Il l'a vendu depuis.
Ah oui. On ne parie pas son scooter. Alors. C'est que Boudjelal, le superstitieux, n'a jamais gagné dans le 34, dans l'Hérault, que ce soit à Béziers ou à Montpellier.
Donc, Et ça, c'est une donnée du problème, on pense.
Non,
lui,
la clé, c'est pas ça. Non, la clé, c'est Wilkinson, la clé.
Oui, pas que. La clé, c'est la discipline.
Mais non,
pas
mais...
que c'est la discipline,
oui.
Ouais,
bon, moi, je veux bien. Bah, oui, mais la discipline et Wilkinson, conséquence 2.
Mais donc d'abord.
Parce que dans ce rugby-là, qui est, rugby, qui est devenu du football américain, encore une fois, c'est le buteur qui fait la différence.
Montpellier-Toulon, Ludovic Ninet, on a du mal à savoir quelle est l'équipe qui présente le visage le plus enthousiaste à la bord de cette
Allez,
rencontre.
Vas-y, Ludo.
Non, mais moi, je dirais que c'est une rencontre qui repose sur la performance de Montpellier, en fait. Je pense que Toulon, on l'a vu, est capable de temps en temps de se transcender.
Trop peu souvent cette saison.
Trop peu souvent, certainement, mais a réussi à le faire. Et je les vois bien arriver justement avec un gros mental et être capable vraiment de livrer une bataille, quoi. Une équipe en contre voilà, qui va essayer vraiment d'empêcher Montpellier de jouer. Et Montpellier, on a vu cette saison qu'ils étaient capables de faire de très belles choses et que quand ils ne parvenaient pas à faire ces très belles choses, ils avaient beaucoup plus de mal à gagner.
Ludo, donc, il va jouer Ouédraogo?
Oui.
C'est toute la différence. Hein. Si Ouédraogo y est ou s'il n'y est pas.
Certainement. Mais je rejoindrai Jérôme qui disait que la saison est longue. Montpellier me fait un peu penser à Castres l'année dernière, quoi, qui avait fait une très belle saison, qui avait fini par s'essouffler, à s'écraser en barrage contre Toulouse. Voilà, je pense que Montpellier, sur le papier, par rapport à ce qu'ils ont montré cette année, est largement capable de remporter ce match. Mais le seront-ils là, à cet instant de la saison?
Et à Toulon, je peux vous dire qu'on est gonflé à bloc, parce que ça rappelle en bien des égards, et Pierre va s'en souvenir, la saison 92. Faut-il le rappeler, le dernier titre de champion de France
Oui, mais qu'avec des minots d'Arade. Hein.
Oui.
Donc, l'esprit, la culture de Toulon,
oui, mais...
c'était ça, effectivement, des commandos. Aujourd'hui, c'est pas ça, Toulon.
Si, c'est un commando.
Oui, t'as raison. Oui.
C'est le même commando. Oui, on se souvient, en 92, ils s'étaient qualifiés à l'arrache. Et des 16e jusqu'en finale, avec la dernière de Blanco, ils avaient soudé. Et ils ont le vent dans l'eau avec eux. Et ça va les porter. Ils ont la perspective d'une demi-finale au vélo. Vélodrome, qui sera le dernier match qu'ils pourront jouer au Vélodrome, vous le savez, jusqu'en 2014, hein, puisqu'après le stade sera
Et la perspective de gagner la conférence l'année dernière en finale à Marseille, c'était pas aussi un enjeu?
Ça l'était, et c'est la blessure de Wilco qui avait
changé.
Et ben voilà, Pierre,
on en revient.
Et Toulon aura peut-être même la chance de jouer un Caramayol, hein, si voilà, avec des si on peut.
Alors si joue un car et joue un scooter, ça fait beaucoup.
Non, si Clermont perd à Toulouse et si Castres perd à Perpignan.
Pourquoi pas?
Eh oui, pourquoi
avec
pas.
Des si, on avec mettrait si. Toulon en demi.
Voilà. Moi, je crains vraiment en fait que Montpellier soit crispé, en fait. Voilà.
Oui.
Et je pense que Montpellier, à part avec Trinduc et Ouédraogo, ils n'ont pas forcément des joueurs qui ont une habitude des grands matchs. Et voilà, peut-être que tout ça, ça peut être un contexte a priori défavorable pour Montpellier. Maintenant, moi, je suis à 50-50 sur ce match.
Il leur faut Ouédraogo, toujours.
Et Mourad Boudjelal a mis l'étincelle où il fallait. Alors, il joue avec le feu, mais il le sait, hein, de toutes les manières.
Oui,
c'est un club atypique. En gardant Gavin Henson, il interdit à son groupe, si tant est qu'il en avait la tentation, de s'endormir sur ses lauriers. J'allais dire qu'il remet le bazar un peu dans le groupe, et il sait que de toute manière ce groupe cette saison ne brille que
par réaction.
L'inconfort et en réaction.
Ouais. Voilà.
Et à quoi ça sert ça? Justement, enfin, à quoi il joue, moi, de réintégrer David Henson?
C'est de ne pas payer, à mon avis, un gros chèque pour mettre fin prématurément à un contrat.
Ça, c'est la première raison.
Et comme j'ai expliqué,
il y a d'autres raisons pour le vendre. Il y a d'autres raisons. Celle-là en est une. La deuxième, le côté psychologique de mettre quelqu'un qui.
Un fouteur de merde.
Oui.
Une tête à claque.
Ouais, mais bon, le groupe, cette saison, a prouvé que voilà, c'est dans la difficulté et dans l'adversité, quand Mourad Boudjelal a poussé des gueulantes, qu'il a réagi. Allez, allons-y, remettons le cochon dans le maïs, comme dirait Pierre. Oui. Et la troisième, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire qu'avec la blessure de Rudy Wolf derrière, on sera bien peut-être content du côté de Philippe Saint-André
d'avoir une solution.
Surtout si la saison ne s'arrête pas dans l'Hérault samedi prochain.
On rappelle que le RCT a annoncé aujourd'hui la signature de Mafileo Tefou, qui est indisponible jusqu'à la fin de la saison en tant que joker médical.
Voilà.
Pendant la joker Coupe du Monde, plus exactement.
Jusqu'en décembre. Il va rester jusqu'en décembre.
Oh là là, ça c'est de la faute, ça.
Bah oui, c'est important.
Oui, attends, c'est de la faute.
Quand on est supporter toulonnais, on est content de savoir.
Sonny Bill Williams, non.
Non, ça c'est pas
le droit de rêver, nous disait.
Mais on rêve beaucoup, j'ai l'impression, dans cette partie de France. Hein, on rêve de Didier Drogba à Marseille, on rêve de...
Sauf que Boudjelal, il les fait venir.
Sauf Bastaro, pour l'instant.
Il les fait pas revenir.
Pas encore.
Ça traîne quand même un peu.
Il y a Matt Guito,
hein.
Je dois en faire la liste.
Non, mais attends. Depuis que Bastaro a décidé de se passer d'un agent pour régler ses problèmes lui-même, ça traîne quand même.
Non, mais c'est... Ouais.
Bon allez, il y aura d'autres rencontres. On aura l'occasion de reparler de Mathieu Bastaro la saison prochaine à Toulon éventuellement. Biarritz-Bourgoin, a priori, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fera 5 points pour Biarritz. La seule chose à
dire. Le dernier match de Bourgoin en 2014.
La seule chose à dire,
c'est Biarritz-Bourgoin ou Bourgoin-Biarritz ?
C'est Biarritz-Bourgoin.
Oh, attendez les gars.
Si.
Ils ont inversé.
Ah oui, ils ont inversé.
Moi, je fais confiance aux Bergaliens. Pour leur baroud d'honneur en top 14.
Pour le bonus, mais pas pour
le BO de
peut-être pour le bonus offensif, bah oui.
Ouais.
Ça fera
que
ça.
Agen-Brive, aucun intérêt, on est bien d'accord sur ce point. Perpignan-Castres. Bah, Perpignan, dernier baroud d'honneur cette saison. Les Castrets, ils doivent s'imposer.
Castres, ils ont encore une chance d'avoir la deuxième place.
Bah oui, bien sûr.
Il y a la deuxième place en jeu, je crois.
Toujours.
Qualificatif direct pour Castres. Moi, je les ai joués depuis longtemps, deuxième.
Ah non, mais donc, c'est bien sûr, d'ailleurs, à propos de Castres.
Surtout face à Perpignan qui va être démobilisé maintenant.
À propos de Castres, Laurent Travers.
Est-ce que vous voyez le Racing perdre à Charletti, vous ?
Ah oui.
Ah oui.
Ah, bon. Pas moi. Alors, pas du tout.
Mais
alors,
je ne mettrais pas un petit billet, moi.
Alors, mais ça dépend quelle équipe ils vont envoyer.
Et juste une chose, Laurent Travers, là, on a oublié Castres. C'est à lire aujourd'hui dans l'équipe.
C'est vrai.
Oui, il a raison.
Une interview de Laurent Travers.
C'est une évidence, mais c'est comme Lorient en football.
On a oublié Castres.
Ouais, sauf que Castres est bien mieux classé que Lorient.
Tu sais que Lorient va être européen et en jouant un football digne de Barcelone avec autant de passes que Barça.
Oui, sauf que
les joueurs, ça les intéresse pas. Castres, c'est pareil.
Sauf que Castres a été leader du top 14, ce que n'a pas été Lorient, était européen déjà la saison dernière.
Moi, je trouve qu'on en a parlé quand même ici de Castres.
Ouais. Non, nous, mais attends, on n'est pas le centre du monde.
Il
a raison, Travers. Moi, je me mets à la place. Je suis un provincial de chez provincial. Et quand je me mets à la place des supporters d'un club comme Castres, c'est vrai que compte tenu des résultats, comme tu dis, du palmarès de ces dernières années, etc., le retour médiatique, comparé à Chabal, il est pauvre.
Mais dans un monde et dans un sport qui est de plus en plus absorbé par aussi les à côté.
People.
Du rugby et du jeu, un club sans histoire.
Ah oui.
Ça te fait peu parler de lui, mais rendons aux Castrés tout leur mérite. Ils ont une des équipes les plus séduisantes.
Bonne équipe,
du top 14.
Oui,
ils s'étaient retrouvés un petit peu courts la saison dernière au moment des phases finales. Ils ont peut-être les moyens.
Ludo, alors.
De franchir
sur le jeu. Palier. Sur le jeu.
Et rappelons quand même.
Moi, je trouve que
sur le jeu, c'est intéressant quand même de voir la vie de Ludo sur le
jeu. Ludo sur le jeu.
Attention. Non, moi, je voudrais juste faire remarquer que l'année dernière, ils n'avaient que des petits derrière et ils m'avaient dit que s'ils pouvaient trouver un centre de 100 kilos, ça les intéressait. Ils ont recruté Baye. Ils ont recruté Baye qui était doublure à Clermont, qui a été toute la saison premier centre.
Et qui fait la différence.
Et ça leur a fait pas mal.
Est-ce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux? Top 14,
c'est l'équipe, à mon avis, qui peut surprendre en allant jusqu'au bout. Est-ce que ça joue mieux? C'est pas évident. Mais en tout cas, quand on a un buteur comme Telet, tu peux aller jusqu'au bout.
Ils ont Telet, puis ils ont quelques gars devant, type
plus régulier, alors.
Técori, quand même, qui font un bien fou.
Oui, celle qui a une assurance tout risque dans ce rugby, encore une fois, de buteur.
Bah forcément, avec un buteur, ça change la donne.
Oui.
On parlait de cette formation Castres à Perpignan. Toulouse-Clermont, là aussi, c'est une rencontre intéressante, mine de rien, pour les Clermontois qui sont déjà qualifiés, évidemment. Les Toulousains qui sont déjà assurés d'être en demi-finale. Mais quand même, pour les Clermontois, il y a la possibilité d'aller chercher, là aussi, cette deuxième place qualificative directement.
Parce que vous voyez le Racing perdre à Charletti.
il faut au moins anticiper sur cette hypothèse, envisager cette hypothèse.
Le Racing a les cartes en main.
Moi, je pense que Toulouse ne peut pas se permettre, après ce week-end, de perdre contre Clermont. Donc, je crois pas trop.
Et Clermont à l'extérieur, regarde son bilan cette année, c'est catastrophique.
C'est famélique. Non, c'est plus pour aller chercher un quart à la maison pour Clermont que la deuxième place.
Chez moi.
Stade Français Racing Métro, messieurs, vous êtes tous d'accord pour dire que le Racing va s'imposer?
Oui.
Non, pas moi.
Non,
pas moi. Parce que. Je me souviens que l'an dernier, alors je parle sous le contrôle encore une fois de mes confrères là, il me semble que Racing n'avait pas joué le jeu. Ils étaient allés avec une équipe bis, je pense. Pourtant que je me souvienne, donc ça avait donné un résultat bidon. Là, je peux penser que le Racing va y aller avec une bonne équipe. Mais je veux dire, si le Stade Français veut nourrir l'espoir de gagner la finale européenne, qui le qualifierait pour l'Europe, le Stade Français ne peut pas faire l'impasse sur ce match. C'est un test.
Mais je pense que le Racing non plus, parce que le Racing, ils n'ont pas joué ce week-end.
C'est le Stade Français qui reçoit.
Ouais, enfin, il reçoit dans un stade, il y a trois personnes.
T'es d'accord, mais entre Parisiens et Franciliens, il va falloir choisir. Hein. Donc les supporters, ils vont devoir choisir.
Il n'est pas impossible qu'il y ait plus de supporters du Racing, d'ailleurs, que de supporters du Stade Français. Non, c'est,
je serais curieux de savoir le message de Max Guazzini, éventuellement, pour essayer de remonter la mécanique des joueurs dont il n'a pas trouvé le ressort, d'ailleurs, cette saison, pour aller essayer de les pousser à l'exploit et essayer de priver
le Racing
d'une demi-finale.
Il l'a donné, le message. Il l'a dit, à destination sûrement des joueurs autant que des journalistes, attendez-vous à une bonne surprise dans les jours qui viennent. Moi, je le décode en disant, bon, déconnez pas les gars, ne vous croyez pas dans un club qui a perdu toute ambition pour l'avenir, etc. J'assure, je fais en sorte que...
Message pour la saison prochaine.
C'est aussi un message pour les joueurs en leur disant, ne sacrifiez rien. Ce club-là, contrairement à ce que dit la rumeur et presse,
il s'agit pas de rien sacrifier. Il s'agit juste d'empêcher l'adversaire du jour de se qualifier directement en demi-finale et d'avoir la possibilité de trébucher des écarts.
Tu peux penser que s'il ne tient pas ce discours-là,
c'est un derby.
S'il ne tient pas ce discours-là, il peut avoir des joueurs démobilisés par ce match-là
parce qu'il y a une finale derrière.
C'est pour ça. Mais tu peux aussi avoir des joueurs qui se disent on va se casser parce que de toute façon il n'y a plus d'espoir, etc. Là, il a pu, à mon avis, remobiliser des joueurs qui auraient pu avoir la tentation.
Je pense que le problème de cette équipe, c'est qu'il y a justement une partie des joueurs qui restent et qui a peut-être type Julien Dupuis qui a un peu envie de se battre, et une partie des joueurs qui savent déjà qu'ils s'en vont.
Les Guizamones.
Et qui sont démobilisés.
Et 5 points, Bayonne à La Rochelle.
C'est important pour
Bayonne, ouais.
Je crois pas du tout.
Non.
C'est important aussi pour les
4 points.
Je crois pas. Enfin, Bayonne peut gagner à La Rochelle, mais je vois pas Bayonne faire le bonus offensif, même si cette équipe a énormément réussi à l'extérieur, à ma grande surprise. Mais je connais les Rochelais. Je te signale qu'on a résisté au siège de La Rochelle, on a résisté à Richelieu, on peut résister au jambon.
Ouais, mais... Ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup Pierre Salviac, merci Ludovic Niné, merci Jérôme Milagou. On en parle évidemment la semaine prochaine, en même temps de parler de la liste de Marc Olivremont qui sera annoncée le lendemain. Merci à vous tous, merci d'être fidèles à Carrément Rugby. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.
C'est très bien.
RTL, l'équipe, la radio sport et info.